Bonjour à tous. Le débat sur l'immigration se tient aujourd'hui à l'Assemblée nationale, sujet ultra sensible qui divise aussi fortement au sein de la majorité, nous dira Rosalie Lafarge. Après l'attaque de la préfecture de police de Paris, alors que l'assaillant présentait bien des signes de radicalisation islamiste, Christophe Castaner sera auditionné demain par la délégation parlementaire au renseignement. Nous entendrons Christian Cambon, le président de cette délégation. Dans ce journal, nous irons aussi en Tunisie où seulement 40% des citoyens ont voté hier pour les élections législatives. Et puis l'affaire Karachi devant la justice. Aujourd'hui, le procès s'ouvre 17 ans après l'attentat qui avait fait 15 morts dans cette ville au Pakistan. C'est un sujet ultra sensible qui sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'immigration. Un débat voulu par Emmanuel Macron. Les échanges s'annoncent explosifs, pas seulement du côté de l'opposition. Au sein de la majorité aussi, le sujet divise, Rosalie Lafarge.
Les marcheurs auront du mal à parler d'une seule voix aujourd'hui.
Je ne suis pas complètement sereine.
Pas sereine, Cécile Rilhac, la députée du Val d'Oise, redoute ce débat.
Cela peut entraîner des discussions qui amènent à monter les uns contre les autres et donc qui fassent le lit du Rassemblement national. Il y a véritablement dans ce débat la possibilité de prendre de la hauteur, de se poser les vraies questions, à savoir comment est-ce qu'on traite les questions d'immigration d'une manière générale, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement en France, au niveau européen, mais au niveau mondial.
Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face, a lancé le président Emmanuel Macron devant les députés LREM il y a 3 semaines, mais chacun au sein de la majorité a sa façon de le regarder en face, ce sujet. Delphine Bagary est députée des Alpes de Haute-Provence.
Arrêtons de stigmatiser et dire que c'est un problème. C'est une richesse, c'est une chance. Et on veut le dire aussi, on veut le porter. Politiquement, on veut le porter.
Avec plusieurs de ses collègues, elle a signé 2 tribunes mi-septembre pour mettre en garde face à l'hystérisation des débats et la nécessité de préserver l'aide médicale d'État. Et s'il partage cet avis, Olivier Véran, député de l'Isère, prône tout de même la tenue de ces échanges.
Je pense que l'immigration est une chance, mais qu'il faut en parler. À force de ne pas en parler, on finit par mettre un espèce de voile honteux sur la question. Donc, d'un débat sur l'immigration peuvent émerger beaucoup de choses. Un discours positif sur l'immigration est une chance pour notre pays, un discours de restriction qui dit attention, comment est-ce qu'on est capable d'accueillir les gens aujourd'hui. C'est tout cela dont on doit débattre.
Le président du groupe, Gilles Legendre, a nommé plusieurs orateurs au sein de la majorité pour ce débat. Parmi eux, Aurélien Taché et Stella Dupont, 2 députés de l'aile gauche, et ça fait grincer des dents en interne. Si on se laisse dirigé par notre minorité, siffle une marcheuse de la première heure, on finira comme le PS.
Le débat commencera à 16h dans l'hémicycle avant de se tenir au Sénat mercredi. Un sujet au cœur du journal des idées de Jacques Munier dans moins de 10 minutes, juste après ce journal. Christophe Castaner sera auditionné à huis clos demain sur les dysfonctionnements qui ont mené à la tuerie de la préfecture de police de Paris. L'employé qui a tué 4 de ses collègues jeudi était radicalisé selon les éléments confirmés par le parquet national antiterroriste. Cette audition du ministre de l'Intérieur sera menée par la délégation parlementaire au renseignement. Le tueur a-t-il pu transmettre des renseignements à l'extérieur, par exemple? C'est le genre de question que compte poser le président de la délégation, Christian Cambon.
À quelles données sensibles, secrètes, confidentielles, confidentielles défense, cet agent de maintenance informatique a eu accès? Parce que si vous êtes agent de maintenance informatique, je ne suis pas spécialiste de la discipline, mais vous rentrez dans des disques durs, vous rentrez dans des logiciels, vous pouvez accéder au contenu. Il faudra qu'on nous précise s'il y a eu des doubles clés, des sécurités supplémentaires qui permettent à un agent de maintenance de ne pas être en contact avec les données sensibles. Vous pourriez avoir des listes d'un certain nombre d'agents et puis surtout quelle utilisation il a pu en faire. Parce que là aussi, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et qui sont des questions très graves, car la délégation parlementaire au renseignement, elle s'occupe de la sécurité de nos agents, du bon fonctionnement des agents de renseignement, et ce sont ces dysfonctionnements que l'on va essayer d'identifier avec le ministre.
Christian Cambon répondait à Cyril Graziani. Les auditions des futurs commissaires européens reprennent aujourd'hui à Bruxelles. Les eurodéputés font passer un grand oral à chacun des membres de l'équipe d'Ursula von der Leyen. Après la pugnacité des questionnements de la semaine dernière, les échanges s'annoncent musclés, Marie-Pierre Véraud.
Josep Borrell, le futur monsieur diplomatie de l'Union, entendu ce matin, devra sans doute répondre à quelques questions concernant sa condamnation pour délit d'initié. Et la Française Sylvie Goulard, qui n'a pas réussi son premier oral, doit passer l'écrit avant, si elle ne convainc toujours pas les eurodéputés, de devoir se soumettre à une nouvelle audition, sans doute ce jeudi. Les questions écrites, nombreuses et précises, la somme notamment de répondre par oui ou non sur son intention de démissionner si elle devait être être mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem. Pour rappel, deux commissaires, hongrois et roumains, ont été recalés en raison de conflits d'intérêts. Trois autres au total, outre Sylvie Goulard, le polonais à l'agriculture et la suédoise aux affaires intérieures, dont les prestations ont été jugées très faibles, ont reçu une série de questions écrites. Des réserves ont été exprimées envers l'aspirante à l'égalité et le futur commissaire au commerce. Enfin, celui chargé des migrations et de la protection du mode de vie européen a lui su convaincre les députés, mais il demande toutefois que l'intitulé de son portefeuille soit revu par la présidente de la commission. Les trois vice-présidents, Dombrovskis à l'économie et au social, Vestager au numérique et à la concurrence et Timmermans au Green New Deal, vont à leur tour passer sur le grill demain, mardi. Pour une majorité de futurs commissaires, le chemin s'avère bien plus rude que prévu.
Le procès de l'affaire Karachi ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le 8 mai 2002, dans cette ville du Pakistan, un attentat faisait 15 morts, dont 11 employés français de la direction des chantiers navals qui travaillaient à la construction de sous-marins vendus au Pakistan autour de soupçons d'un présumé financement illégal de la campagne électorale d'Edouard Balladur en 1995 via des rétrocommissions. Et si ce procès a lieu, aujourd'hui, c'est grâce à l'obstination des familles de victimes, insiste leur avocat Olivier Maurice, interrogé par Florence Turme.
Depuis le début, nous avons indiqué que nous étions en présence d'une affaire d'État. On n'a pas voulu nous croire. On a voulu même se moquer des familles des victimes. Je vous rappelle que certains disaient que tout cela était une farce ou que, de toute manière, les faits étaient prescrits. Aujourd'hui, ces procès vont s'ouvrir et je crois que s'ils permettent de connaître un peu mieux la vérité sur ce qui s'est passé, ils vont démontrer à tout le moins que nos mœurs politiques étaient des mœurs qui ne correspondaient pas aux règles de droit, au respect de ces règles de droit, et qu'on sait depuis bien longtemps que tous ces contrats d'armement servent en réalité à financer des partis politiques, à financer des campagnes présidentielles. Et tout cela est dommageable parce que on se demande face à cette situation ce que le justiciable ordinaire peut en penser. Face à cette tragédie que vivent les familles des victimes, eh bien, on se dit tout de même d'une certaine manière que la justice est parfois fort démunie par rapport à toutes ces pratiques.
L'ancien Premier ministre Édouard Balladur et l'ancien ministre de la Défense François Léotard seront jugés ultérieurement devant la Cour de justice de la République. Au Portugal, la victoire du Premier ministre socialiste sortant, António Costa, aux élections législatives hier, selon des résultats quasi définitifs, avec près de 37% des suffrages, sa formation obtiendrait 106 sièges remportés sur les 230 que compte l'Assemblée, sans majorité absolue pour autant, mais un seul allié pourrait suffire, le bloc de gauche s'est déjà dit bien disposé hier soir. Alors qu'en Tunisie, 60% des citoyens ne sont pas allés voter hier pour les deuxièmes élections législatives depuis la révolution de 2011. Si les sondages à la sortie des urnes se confirment, les islamistes l'emportent devant le parti de l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui et devant les partisans de l'ancien régime. Un scrutin douloureux pour la société civile tunisienne. À Tunis, c'est un reportage de Maureen Mercier.
Pour la société civile, c'est un coup d'assommoir. Les islamistes des Narda, même s'ils perdent presque la moitié de leurs sièges, seront la principale force du Parlement, suivie du parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle, surnommé le Berlusconi tunisien, en prison soupçonné de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. La troisième place revient à celle qui se revendique de l'héritage de Ben Ali, Habir Moussi. Frech Fenich, expert international en droits de l'homme et activiste au sein de la société civile tunisienne, tente d'encaisser la nouvelle.
Bon, j'espère qu'ils ne vont pas se mettre tous les trois d'accord pour constituer un gouvernement d'escrocs. Les trois partis ne représentent pas les aspirations du peuple tunisien, ne répondent pas aux demandes de la révolution. Ils sont en train de reproduire le même modèle de développement qui a échoué pendant 23 ans, le clientélisme, le népotisme et l'intérêt personnel.
Si les Tunisiens se réveillent aujourd'hui avec un parlement qui ne leur ressemble pas, c'est parce qu'ils se sont, pour une grande majorité, abstenus de voter pour sanctionner la classe politique. Un choix qui risque de se retourner contre eux.
Je ne pense pas que la classe politique a reçu le message. La jeunesse n'est pas contente, n'est pas satisfaite. Et ceci est très grave pour les prochaines années. Parce que cela pourra provoquer la création ou l'émergence de mouvements contestataires très violents. Et automatiquement, il y aura une confrontation.
La Tunisie suspendue aux résultats définitifs qui doivent tomber d'ici mercredi.
Maureen Mercier. La météo, alternance de soleil et d'éclaircies en majorité aujourd'hui, de la pluie sur la Bretagne et sur l'Alsace. Les températures moyennes sont comprises ce matin entre 12 et 21 degrés, avec 12 degrés à Lille, 14 à Paris et 21 degrés à Marseille.